Vous êtes bien sûr Radio Libertaire 89.4, c'est l'émission Offensive Sonore qui commence. Ce soir, on reçoit l'inconsolable et on va parler notamment des luttes sur la loi travail. Et on commence où l'inconsolable a beaucoup participé, notamment aux ambiances musicales. Et on va passer un extrait justement des chansons qui sont plus d'actualité. C'était la chanson 49.3.
Les sourcils froncés, va pas dégonfler, non. Tu peux les enfler, essaie d'exploiter les travers qu'il y a dans le droit. Envoie le 49.3. Si les représentés ne sont pas des gens très sensés, ne veulent pas comprendre ce que le représentant leur représentait, n'ont pas l'air plaisantés de chemin, ne veulent pas prendre le croix. Envoie le 49.3. Si tu concordes une loi qui est bien, que les gens ne voient pas, c'est rien. Ne m'en veux pas, c'est bien qu'ils ont peu de poids. À défaut que soit crétin et qu'un tas de gens te croient. Envoie le 49.3. S'ils veulent pas t'écouter, si t'es dégoûté, si t'es dérouté par le fait que t'es douté, qui pourrait dégoûter ta plan de là. Envoie le 49.3. Et si faut les berner, les cerner, bref gouverner. Mais si veulent pas se permettre de faire la guerre et que les confères laissés, là tu le vois qu'il faut que tu n'envoies le 49.3. Si la François,
le 49.3 est une brutalité,
ouais.
Brutalité,
ouais.
Brutalité,
ouais.
Le 49.3 est une brutalité,
ouais.
Brutalité,
ok, à moi, si le peuple ne veut pas se laisser soumettre, s'il se peut qu'il ne veuille pas Dieu ou de maître, s'il conteste, si on pèse, si on se dresse contre toi, envoie le 49.3. Si tu veux le réduire en esclavage, pendant que pour toi c'est le gavage, si t'as pas le sens du partage, si tu veux un carnage comme font les keufs dans 9-3, envoie le 49.3. Si la démocratie s'écause toujours, des lois qu'on impose toujours, et l'État qui s'oppose toujours à des tas de gens, le peuple s'entend pour le droit, là envoie le 49.3. Si ça passe plus, que les gens en ont plein le cul, que malgré tes nasses, plus tes gaz, tu n'as rien pu faire pour les dissuader, te faire entendre leur voix, envoie le 49.3. Si t'amènes une loi comme celle de Myriam, qui m'amène plus loin, qui m'amène islam, s'il baille que j'entrevois, tire taille dans le tas, 49.3, s'il lui dit.
Le 49.3 est un déni de démocratie,
si si,
si si, un déni de démocratie,
ouais.
Le 49.3 est un déni de démocratie,
si si,
si si, un déni de démocratie.
Ok, s'il faut entraver les manifs, y'a l'état d'urgence, les interdictions préventives, la dictature française se porte mieux qu'on le croit, preuve en est le 49.3. Si les gens se lèvent en ayant l'élan des grands soirs, se mettent en tête, faire voir et des plans, si le peuple se bat pour pas servir de proie, là envoie le 49.3. Pourquoi lui demander son avis, hein, puisque t'as le tien? La palme est pas sur la vie, donc tu t'abstiens. Tu lui fais croire que tout tient, ton nombre de voix, puis t'envoies le 49.3. Et si les gens se méfient, te défient, se défendent, qu'on défie de tes demandes de crédit? Si on ne croit pas dans cela, un conseil, envoie le 49.3. Car si tu l'emploies pas, tu verras casser la gâte à vas-y. Car ton tracteur attend apparemment à tabac. Non, rien n'y fait là-bas, lance la linéa à 49.3.
Le 49.3 est une manière d'empêcher le débat parlementaire,
ouais.
Parlementaire.
Et comment?
Par des procédures que nous utiliserons jusqu'au bout.
Voilà,
jusqu'au bout.
C'est ça. Si tu t'es tellement crié bêtement que malgré ton entêtement, les gens savent que t'as classé sainement, qu'ils descendent faire l'esclandre, croient qu'ils entendent de toi. Envoie le 49.3. Si tu t'appelles Vax, Kamas, ta gaz, quoi qu'elle fasse, ta basse, Nas, la fracasse, l'armée là à sa place. Faut que la place pauvre soit dans la place, oui, tant de fois, et que t'envoies le 49.3. Si en un an tu l'as fait 4 fois, c'est pas grave mais fais gaffe quoi. Il se pourrait qu'à terme ça se voit, si c'était déjà le cas. Et pour tout retourner là, faut l'attendre que ça, que t'envoies le 49.3. Si tu perds patience, tu veux nous faire taire, balance. Le 49.3 avance les pions mais c'est pas de chance. Nous les amis de Coupane, t'es mon pas nous en veut pas. On retournera la France contre toi. Et si tu t'aperçois qu'avec tout ça personne ne t'apprécie, qu'on voudrait ta chute, tu traites à main avec les dallos. Ou à 100 degrés l'eau, nous je crois qu'on devrait les 49.3.
Quant à la procédure elle-même, elle est prévue par la Constitution.
Tout à fait.
Et elle nous a permis de faire adopter ce texte.
Voilà.
Qui aurait pu l'être avec une majorité qui était sans doute là.
Certainement.
Mais qu'il fallait plutôt ne pas vérifier pour ne pas perdre de temps.
Exactement.
Voilà, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4 FM. On reçoit l'inconsolable, alias Naïm. Bonsoir.
Bonsoir.
Là, on vient d'écouter un extrait, en fait, des morceaux que tu sors de temps en temps, en fait, qui sont liés à l'actualité. Et on te reçoit surtout aussi parce que on avait fait un peu la promo. On avait dit aux gens de participer en fait à l'élaboration d'un projet. Donc c'était une sorte de souscription hein, que tu lançais sur internet à propos d'un album qui est sorti en fait, qui a eu suffisamment d'argent pour pouvoir être produit en physique.
Ouais, ouais.
Et ça s'appelle Rap Game.
Rap Games, ouais. C'est ça.
Et là, on peut le trouver actuellement. On peut l'acheter directement.
Pour l'instant, on peut le trouver auprès de moi. L'acheter directement auprès de moi, c'est-à-dire du coup en me contactant par soit par mail, soit par Facebook ou par le site L'Inconsolable. Mm-hmm. C'est le plus pratique. M'envoyer un message par le site L'Inconsolable. Donc c'est L1 le chiffre et consolable tout attaché .com. Par la rubrique contact et puis sinon on peut aussi écouter la version dématérialisée en ligne et la télécharger aussi sur le Bandcamp de l'Inconsolable.
Voilà. Après il y a un truc qui a beaucoup changé je trouve par rapport à la dernière émission, c'est que il y a eu la loi travail, j'en parlais un peu tout à l'heure, c'est enfin surtout les mobilisations contre cette loi hein, qui est assez catastrophique pour le droit du travail hein, qui est vraiment la première grande casse du CDI. Et t'en as profité pour faire plusieurs morceaux. Donc celui-là qu'on vient d'écouter, 49.3, donc, puisqu'effectivement cette loi est passée en dehors des circuits traditionnels, hein, même si ça devient assez courant maintenant d'utiliser le 49.3 pour faire passer des lois.
Ouais.
Ça a choqué un petit peu au moment de Sarkozy, mais finalement on s'est habitué avec notre nouveau Premier ministre du PS, du Parti Socialiste. Et donc, d'ailleurs, ouais, Manuel Valls. Excusez-moi pour le lapsus. Et donc, oui, dans ce que je disais, c'est que tu as fait plusieurs clips. Déjà, tu sortais plus énormément de vidéos, donc il y a eu ça. On t'a revu sur des vidéos YouTube ou Dailymotion, et c'était vraiment dans le thème. Et ça a fait un mini buzz parce que c'était pas non plus t'as pas eu des millions de vues, je pense, mais quand même une apparition suffisante. Et aussi, on t'a vu après dans énormément de concerts de soutien. Donc voilà, je voulais juste que tu dises ce que t'en pensais par rapport à ça.
Ouais.
Est-ce que pour toi, ça, comment tu l'as vécu cette période-là? Si ça continue toujours d'ailleurs, si t'es toujours invité un peu partout.
Alors un peu partout, oui et non. Après, en fait, déjà pour refaire un peu redire un peu ce qui moi m'a motivé à faire ces morceaux-là, c'est que je perpétuais là un exercice que j'avais l'habitude de faire depuis un moment, qui était écrire des chroniques rappées sur l'actualité du moment, en tout cas sur une partie de l'actualité du moment, soit en traitant des sujets que je jugeais occultés par les médias dominants, soit en traitant des sujets que les médias dominants traitent, mais par un biais un peu différent, en essayant d'avoir un regard critique un peu sur le traitement qui en est fait, etc. Et ça, c'est un exercice que j'avais commencé à Radio Libertaire, pour le coup, dans l'émission « Les enfants de Cayenne », de Gilou les lundis matins, donc c'était il y a bien 2 ans, l'émission qui s'est arrêtée depuis. Donc c'est un exercice que je faisais chaque semaine à l'époque, qui avait donné lieu à donc un certain nombre de chroniques rappées et qui moi je m'avais donné goût à ça en fait, à cet exercice-là, le fait d'avoir un peu ce challenge de la réactivité, c'est-à-dire réagir vite par rapport à ce qui se passe, mais en même temps vite, c'est-à-dire une fois par semaine à une actualité hebdomadaire, mais en même temps en prenant le temps de traiter un peu le sujet en profondeur et d'avoir une lecture un peu critique, de se documenter aussi, de pouvoir apporter des arguments, des éléments chiffrés, etc. Enfin voilà, d'avoir un truc un peu dense et pas juste un truc un peu superficiel. C'était un peu l'idée. Et j'avais fait ça donc à Radio Libertaire aux enfants de Cayenne, puis l'émission s'est arrêtée, j'ai repris 4 chroniques, enfin j'ai repris l'exercice, le temps de 4 chroniques du moins, chez Daniel Mermet.
Là-bas, si j'y suis, internet.
Voilà, quand il a repris sur internet, la première chronique c'était au moment des attentats, c'était début janvier 2000.
Oui, Charlie, c'était
15 ou 16 du coup.
2015.
Voilà. Donc c'était Où est Charlie, effectivement, et au moment des attentats, effectivement, de Charlie Hebdo et de l'hyper cachère, j'ai rappé ça donc en live dans l'émission, et puis on s'est parlé, on s'est décidé que je pouvais continuer cet exercice-là, donc je l'ai fait encore 3 émissions, puis finalement ça s'est arrêté, et du moins Daniel Mermet m'a pas rappelé et on a dû s'arrêter là. Et du coup moi j'avais malgré tout envie de continuer un peu l'exercice pour moi-même en vérité, parce que c'est quelque chose dans quoi je prenais du plaisir et que je trouvais pertinent. Je trouvais là, dans cet exercice, c'était une manière de redonner au rap aussi sa fonction politique première qui moi m'avait séduit au départ. Une fonction voilà vraiment d'information et de revendication politique. Et là je trouvais que du coup elle prenait tout son sens. Donc du coup je me suis dit, de temps en temps, de temps à autre, quand il y a quelque chose qui dans l'actualité me touche, ou me donne envie en tout cas d'écrire là-dessus, je me laisse aller et je le fais.
Mais tu l'avais fait aussi pour le... pour les croissants de personnes des Républicains qui...
Je l'ai fait pour l'affaire des pains au chocolat de Jean-François Copé,
voilà, c'est ça, oui.
À l'époque avec le morceau Viennoiserie et Sournoiserie. Je l'ai fait avec À leur place, le morceau sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Oui. Je l'ai fait avec le morceau Tous les chemins mènent au Rhum sur la chasse au Rhum faite notamment par notre Premier ministre Manuel Valls. Je l'ai fait et plus récemment, là, avec le morceau Le Livre de la Jungle de Calais sur le sort fait aux migrants, notamment à Calais. Donc voilà, du coup, c'est un truc que je continuais à faire régulièrement, à côté des albums, en fait, c'était autre chose. Et il se trouve que la loi travail m'a donné des éléments là-dessus, de l'inspiration, et m'a donné envie d'écrire, enfin, du coup...
C'est aussi, pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est un thème qui t'est très cher, quoi, en fait.
Alors, pour le coup, effectivement,
il y a eu plusieurs albums précédent sur la non-actif, enfin le non-travail plutôt.
Ouais, en tout cas une critique assez violente du travail en tant qu'activité contrainte, aliénante, et effectivement une invitation à réfléchir un autre mode d'activité, d'agir, etc., qui soit pas forcément celui du salariat et du travail. Donc ça, c'était un thème récurrent chez moi du fait de mon expérience propre. Hein. Ça rejoignait un peu ce que j'avais vécu et le besoin que j'avais d'en parler, d'y réfléchir. Et même si les thèmes se sont diversifiés, c'est vrai que quand cette loi est arrivée, c'était l'occasion de revenir là-dessus par un biais un peu différent. Et voilà, du coup, il y a eu cette loi travail. J'ai lu des articles un peu. Je me suis dit, tiens, j'ai vraiment envie d'écrire là-dessus. J'ai commencé à écrire. Et puis le titre a pas mal circulé. Donc j'ai fait aussi, effectivement, comme tu le disais, c'est vrai que ça fait un moment que j'avais pas fait de clip. Et ça, c'était moins dû à une volonté personnelle de pas faire de clip que au fait que, de mon côté, j'étais à la fois assez occupé par tout ce que je faisais, et puis l'ami avec lequel je fais des clips, qui s'appelle Benoît Yin, et qui a réalisé, du coup, et le clip de 49.3, et le clip de On vaut mieux que ça, et celui de l'iPhone 4, et celui de Consommer moins, et celui du blues du taf.
D'accord, c'est une ancienne collaboration.
Ouais, très très ancienne. C'est un ami de... Ça fait une vingtaine d'années qu'on se connaît. Un ami que j'ai rencontré au lycée, et du coup, qui est vidéaste. Professionnel, quoi. Et du coup, c'est lui qui a réalisé la plupart de mes clips. Donc c'était plus dû au fait que lui comme moi étions relativement occupés, qu'on avait du mal à trouver en fait à chaque fois le temps de pouvoir clipper des morceaux sur les albums. Et la loi travail nous a donné à tous les deux, lui aussi en fait, ça l'a motivé à réagir. Et il a trouvé qu'une des manières de réagir pour lui étant vidéaste, c'était de réaliser ce clip et d'en faire un élément de circulation de l'information, voilà, un outil qui puisse servir aussi à informer là-dessus peut-être des gens, et puis à donner aussi une dimension artistique à ce...
C'est vrai que d'ailleurs je sais que sur les Facebook et tout ça, toutes les réseaux dits sociaux, il y a eu des choses qui ont circulé. Je voyais des gens qui disaient, ah, enfin un truc intelligent qu'on peut faire circuler sans que ça soit non plus des slogans, deux trois slogans, enfin des choses qui pour eux leur permettaient aussi d'avoir un tract vidéo qui soit pas bête et qui soit pas abrutissant, qui soit pas chiant et qui allie un peu le côté le côté ludique, le côté musique et quand même un message très 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 proche de ce qu'il y avait dans les manifestants, ce que le mouvement Nuit Debout voulait faire passer comme message. Donc
c'est cool de savoir qu'il se dit ça. Effectivement, moi j'ai eu pas mal de retours dans ce sens-là aussi, même un grand nombre, et ça nous a fait plaisir parce que c'était ce qu'on essayait de faire en tout cas, de garder une certaine qualité de réflexion et de revendication. Par exemple, moi, quand j'ai écrit la chanson, J'avais pas envie de renoncer, même si pour le coup le mouvement était naissant. Moi, j'avais pas envie de m'en tenir là parce qu'il me semblait que cette loi, aussi aussi inique, aussi infâme soit-elle, n'en était qu'une de plus. Tu vois, dans un espèce de grand panier où elle s'accumule depuis pas mal d'années maintenant. C'est-à-dire que cette loi, elle fait suite à la loi Macron, elle fait suite à beaucoup d'autres. Et après elle, il y en aura d'autres aussi. Du coup, pour moi, il me semblait dommage de s'en tenir vraiment à cette loi, et je pensais qu'on pouvait élargir la critique de manière générale à la société capitaliste qui produit ce type de loi pour pouvoir légitimer ces structures et les perpétuer, et maintenir les gens maintenir les prolétaires dans les positions qu'ils occupent, c'est-à-dire justement de devoir aller vendre leur force de travail sur le marché du travail, etc. Mais voilà, pour moi, elle fait partie de, c'est un arsenal de l'ordre dominant, de l'ordre existant, qui lui sert à se perpétuer. Cette loi, elle est un des outils, mais elle est pas ça suffit pas de lutter contre cette loi pour moi. Je voulais pas que dans la chanson on ait l'impression que tout se joue sur cette loi. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par cette loi et son contenu, pour ensuite passer à une critique dans un deuxième temps de la chanson qui rejoignait plus ma position dans les albums précédents, etc., qui était une critique du travail en tant que tel, en tant qu'institution, en tant que dans la manière dont il nous est vendu comme seule manière comme seul rapport possible à l'activité, etc. C'était aussi ça que je voulais critiquer. Et puis dans un dernier temps aussi, même je terminais la chanson sur une critique, une autocritique du slogan "On vaut mieux que ça", au sens où il m'avait pas échappé que dire "on vaut mieux que ça", c'était déjà reconnaître qu'on vaut quelque chose, si tu veux, c'est-à-dire se bien vouloir se soumettre en fait aux mesures économiques qui sont celles du marché du travail. Dire "on vaut mieux que ça", c'est bien dire oui, on vaut quelque chose, on vaut un peu plus que ce que vous donnez. C'est dire que finalement ça pourrait jouer avec un montant en fait. Si on nous donnait un SMIC un peu plus élevé, tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et c'est pas mon idée non plus, justement. Le problème pour moi, c'est pas juste qu'on vaut mieux que ça, c'est que en vérité les vies qu'on voudrait vivre n'ont pas de prix et qu'elles devraient pas se mesurer à l'aune des critères qui sont ceux de la société capitaliste marchande, etc., c'est-à-dire justement d'un salaire, de son coût, de son prix, voilà. Donc j'avais envie qu'il y ait tout ça dans la chanson, et il me semblait que justement pour ne pas me trahir dans ma conception des choses et dans ma façon de percevoir tout ça, je voulais pas qu'il y ait juste le côté, si tu veux, revendicatif sur la loi de travail. Donc j'étais content d'avoir pu garder tout ça. Après, je savais pas du tout comment ça allait être reçu, parce que justement ça dépassait un peu en tout cas au début du mouvement, ce qu'on entendait, tu vois. J'étais pas encore sûr que beaucoup me suivraient sur ça. Et finalement, il s'est avéré qu'avec le temps, j'ai eu la bonne surprise de voir qu'on était quand même un certain nombre à s'en prendre au travail davantage encore qu'à la loi travail, etc. Et puis, de manière plus générale, à vouloir en finir avec la société capitaliste, avec ses instances représentatives, etc., quoi, tu vois.
Et puis, il y avait, toi, tu parles de valeurs financières. J'avais l'impression aussi que dans "on vaut mieux que ça", il y avait le slogan "on n'est pas que des pions avec un on n'a pas qu'un boulot, quoi. On est aussi, on a d'autres choses à faire. On a
c'est ça,
il
oui,
y avait un double slogan là-dedans, parce que dans les témoignages, parce que c'était une campagne internet avec beaucoup de témoignages sur YouTube de gens, on entendait voilà des vies brisées du harcèlement moral, etc. Et donc c'était aussi pour dire, pas pour combattre forcément la centralité du travail, mais dire voilà quoi, il y a besoin aussi d'avoir des rapports pas forcément ultra libéraux avec voilà justement une valeur d'achat, etc. C'est pas que un truc personnel, c'est on vaut mieux que ça en tant qu'humain, quoi, que de rentrer dans ce schéma là enfin moi c'est comme ça que je l'avais pris, plus que, mais après donc c'est pour ça que le slogan pour moi à la fin, on va la passer la chanson, parce que comme on en a parlé pas mal et que les auditeurs n'ont pas forcément écouté, même si ça a eu son petit retentissement dans le milieu militant, même au-delà, quoi. C'est vraiment un succès, on peut dire, cette chanson-là. Et ouais, ce que je voulais dire, c'est que tu termines par "notre vie n'a pas de prix", mais c'était pas pour moi contradictoire avec la campagne "on vaut mieux que ça", quoi, en fait.
Je termine en disant que on vaut mieux que leur dire "on vaut mieux que ça", car on n'a pas de prix, c'est ça que je dis à la fin. Et effectivement, enfin, c'est pas, non, pour moi non plus, c'est pas contradictoire, parce qu'en vérité, dès le début, je me suis mis en relation avec les vidéastes qui avaient décidé de mettre en route cette campagne-là, en Vaut mieux que ça, et donner la parole, en fait, aux travailleurs, et, pour qu'ils racontent leur expérience, la manière dont ils vivaient, leur rapport au travail, la manière dont ils étaient harcelés, humiliés, par leur patron, par leur chef, etc. Enfin, je trouvais ça vraiment salutaire qu'est cette initiative de donner la parole aux gens, aux travailleurs eux-mêmes, qui puissent témoigner de ce qui se passait dans leurs entreprises diverses et variées. Et là-dessus, on s'est bien entendu, quoi. Et puis, du coup, je leur ai demandé si je pouvais utiliser leur slogan. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de souci. Voilà, donc c'était pas non plus contradictoire. C'était juste que, effectivement, moi, en y pensant, j'entendais aussi dans ce slogan une limite qui était. Dire on vaut mieux que ça, c'était déjà reconnaître, si tu veux, l'unité de mesure de l'ennemi, l'ennemi politique, quoi, tu vois, qui est justement la valeur économique, en vérité. Et par peur que ça soit compris de cette façon-là, je voulais m'assurer que justement qu'on puisse comprendre ce que tu disais à l'instant, à savoir que on vaut mieux que ça au sens où on n'est même pas obligé de se mesurer, de s'auto-évaluer soi-même sur à l'aune de ces critères-là. Économique, tu vois, d'un salaire, etc., etc., d'un niveau de consommation, d'un pouvoir d'achat, enfin bon, que sais-je, mais qu'on a d'autres choses à vivre, d'autres choses à faire, d'autres choses à penser, qui me paraissent à moi infiniment plus importantes. Et voilà, du coup, c'était aussi une manière de m'assurer que les gens puissent comprendre cette critique, cette dimension-là aussi dans le morceau. Et pour finir de répondre à ta question, du coup, parce que j'y ai pas tout à fait répondu, sur la manière dont le retentissement qu'avait eu celui-là et puis et 49.3, les deux morceaux qui ont été créés un peu dans ce moment-là de mouvement de contestation de la loi travail, c'est vrai que donc on vaut mieux que ça a eu un grand succès, ça a vachement circulé. Bon, c'est ça répondait à une actualité, etc. Les gens s'y sont retrouvés, donc c'était une belle surprise pour moi, ça m'a fait vraiment plaisir de sentir que ça pouvait justement que les gens se sentaient représentés aussi par ce morceau, en fait, que d'autres se disaient que je disais ce qu'ils pensaient, tu vois. Et c'est ce qui m'est souvent arrivé avec de la musique, avec le rap notamment, de se sentir, et c'est quelque chose qui fait du bien. Moi, d'un autre côté, ça me donnait le sentiment d'être moins seul, justement, à critiquer assez violemment l'institution qu'est l'institution du travail. Et puis, sur 49.3, ça a été, en fait, j'avais pas du tout cette idée-là. Je pensais que 49.3, qu'on a mis plus longtemps à réagir parce qu'on était occupé, moi, à l'album Rap Games, c'était le moment de la sortie, Benoît à d'autres choses, le temps qu'on fasse le clip, etc. Il s'était écoulé pas mal de temps, bon, finalement il se trouve que depuis il y a eu d'autres utilisations du 49.3 pour faire passer la loi travail, mais ça je le savais pas encore à ce moment-là. En tout cas, il s'était déroulé pas mal de temps depuis la dernière fois que Valls avait utilisé le 49.3, donc on avait réagi beaucoup moins vite, on n'était pas dans l'urgence de l'actualité ni rien, et du coup je me disais bon bah je pense pas du tout que le morceau va circuler de la même manière, mais c'était parce que moi j'avais besoin de le faire, donc voilà, je l'ai fait, je l'ai publié, et aussi je me disais que comme ça touchait à quelque chose de plus profond, qui était vraiment une critique comment dire, qui dépassait de très loin la loi travail, mais qui est là pour le coup assumait le côté beaucoup plus libertaire, anarchiste, qui remettait en question l'État, sa légitimité, la violence policière, etc. Je me disais que du coup ça allait moins fédérer, si tu veux. Enfin, forcément il y a des gens qui pouvaient se retrouver dans le côté on est contre la loi travail, et qui là allait se dire ah oui mais non, ça va trop loin, critiquer l'institution policière en tant que telle, tu vois, critiquer l'État, etc. Non, là ça c'est pas mon truc. Donc je pensais vraiment pas que ce morceau aurait un succès du genre de celui de Non mieux que ça, et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il a eu plus de succès. 49.3 a encore plus circulé qu'on veut mieux que ça, à tel point que pour le coup tu disais peut-être pas fait des millions de vues tout à l'heure, j'en ai pas fait des millions, mais j'en ai fait plus d'un million sur 49.3 sur le clip. Il a été posté à 4 endroits différents, en fait, et en additionnant les vues, il y a, en 2 mois, même pas, il y avait plus d'un million de vues, quoi. Donc ça, c'était vraiment inattendu pour nous. Enfin, pour le coup, on s'attendait vraiment pas à ça, et là encore, ça a été cool de voir que finalement, c'était vraiment, tu vois, encore en prise avec ce qui se passait, même si c'était coulé du temps, et aussi dans la vision politique des choses, quoi, tu vois. C'était bien de se dire qu'on n'était pas isolé à remettre sérieusement en question l'institution policière, la légitimité de l'État et de ses institutions représentatives, etc. Enfin, donc, c'est un double, c'était une double belle surprise, quoi.
La réforme du code du travail vaut mieux que ça. C'est pas qu'il y ait deux ou trois failles. C'est qu'on vaut mieux que ça. Se résigner sans livrer de bataille. Qu'ils disent que l'on est pas taille. Que les gens acceptent qu'on les assaille. On vaut mieux que ça. Qu'on laisse gouverner le patronat. On vaut mieux que ça. Qu'on fasse gouverner par vos lois. On vaut mieux que ça. Quelques irréductibles gaulois face à l'envahisseur bourgeois qui voudrait piétiner nos droits. On vaut mieux que ça. La loi et le Khomri. On vaut mieux. Et toutes ces conneries. On vaut mieux. Marre de ces moqueries en haut lieu nous. On vaut mieux que ça. Que toute leur tromperie. On vaut mieux. Ça paye pas le bon prix. On vaut mieux. On a bien compris qu'on vaut mieux, ouais. On vaut mieux que ça. La réduction des temps de repos. Les salaires peuvent faire de gros. Bons en arrière quand le haut. La pyramide veut me faute. Ajouter le fractionnement des 11 heures de la journée. On vaut mieux. Repos et euros à journée. Non, on vaut mieux que ça. Les heures supplémentaires peuvent être 5 fois moins majorées. Mieux. Les apprentis mineurs peuvent trimer 10 heures par jour. Mieux. Les heures partielles à 24 heures. La semaine à 35 heures. Et d'autres qui t'a à cœur que cette loi vise à chourer. C'est au service des exploiteurs. Des groupes les plus dévastateurs. À qui cette loi fait des faveurs. Que l'État a couré. Le plafonnement des indemnités, on veut pas se gourer. C'est pas pour aider le salarié car on vaut mieux que ça. Les plans de sauvegarde de l'emploi consistent en avirer les salariés sans quoi la barque est censée chavirer. Pour prétendu motif économique au lieu de ça, blague-t-il pourront se faire sans raison, mais on vaut mieux que ça. Passer de 10 à 12 heures de travail par jour, on vaut mieux. L'extension du dispositif forfait jour, on vaut mieux. Bosser gratos pour leurs beaux yeux par amour, on vaut mieux. Patron Jacques, on vaut mieux, ouais. On vaut mieux que ça. Et puis c'est vrai qu'aller s'épuiser, on vaut mieux que ça. S'enliser dans l'entreprise et se mépriser, on vaut mieux que ça. C'est chiné. Et se ruiner, mieux que ça. Et trimer pour des primes et puis déprimer, on vaut mieux que ça. S'abîmer pour pas un rond pour des patrons, on vaut mieux que ça. Suivre les recommandations d'Emmanuel Macron,
il vaut mieux pas.
Chez Fayon, on vaut mieux que ça. Et la pompe, c'est ça qu'on compte en fait d'affront, on vaut mieux que ça. Faire le taf, on vaut mieux que ça. On vaut mieux que se tuer au boulot, que se maintenir la tête sous l'eau, que s'anesthésier le ciboulot. Pour l'heure, on vaut mieux que ça. On vaut mieux bosser au McDo, mettre en rayon des packs d'eau. On est loin de nos rêves d'ado. C'est vrai qu'on vaut mieux que ça. Perdre sa vie à la gagner, passer son temps à se manier. On est tous dans le même panier, et on vaut mieux que ça. Notre pouvoir pourront pallier, tant ils vont voir qu'on est pagné si on cesse les accompagner, car on vaut mieux que ça. Grève générale, ad vitam aeternam, va, si Paris réclame, ta petite Paris c'est le drame. Pour la bourgeoisie, car Ricard, qui fabriquait sa cam, qui a trimé pour ses produits et sa gamme. Sans salariat,
aïe aïe aïe,
ça va pas, ah bah ça tombe bien, combien vaut-on à ce stade-là. On vaut mieux que leur dire qu'on vaut mieux que ça. Ils ont là appris qu'on se moque de savoir combien on vaut, car on n'a pas de prix. Pas de prix, pas de prix.
Il y a un effet étrange. Donc on revient avec avec l'inconsolable Naïm.
Ouais.
Voilà, on a écouté donc la fameuse chanson On vaut mieux que ça. Et tu dis que 49.3 a eu un peu plus de succès, mais celle-là était le début d'un mini phénomène. Mais c'était un clip qui avait été aussi tourné en manif dans les mobilisations contre la loi El Khomri, contre la loi dite travail.
Ouais.
Si vous voulez, tu parles un peu de ton engagement.
La première manif du mouvement contre la loi travail, c'est-à-dire le 9 mars.
Excuse-moi, je t'ai pas bien entendu.
je disais que ça a été tourné du coup le 9 mars, donc dans la première manif contre la loi travail en fait. Mm-hmm. Toutes les images du clip ont été tournées dans cette manif là.
Et du coup, ouais, je voulais savoir un peu ton engagement. Donc, je disais, t'as fait pas mal de clips, de concerts de soutien,
ouais,
autour de cette loi travail et un peu sur des répressions policières, je pense aussi un peu après. Mais toi-même, tu étais engagé en fait, t'étais parmi les manifestants.
Bah, mon implication, ouais, s'est fait sur plusieurs plans ou à plusieurs niveaux. D'abord, effectivement, à titre personnel. Dans les manifestations, dans les actions diverses et variées, il y avait une grande diversité de modalités d'action. Donc il y avait notamment des manifs, mais pas que. Et puis dans les AG aussi, de interlutte interpro, où on essaie de fédérer un peu des groupes de sensibilités politiques parfois différentes, communistes, libertaires, avec des pratiques aussi assez différentes. Ça continue à avoir lieu, ça, toutes les semaines à la Bourse du Travail. C'est assez intéressant, c'est laborieux, c'est compliqué, mais c'est assez intéressant. Donc ça a été déjà de m'impliquer dans tout ça. Effectivement, j'ai fait la majorité des manifs, sauf celles où j'étais pas sur la région parisienne au moment où elles avaient lieu. Mais sinon, j'étais quasiment à toutes, jusqu'à celle du 15 septembre comprise. Et puis, ça, c'est donc une première manière de m'y être impliqué. Et puis l'autre, c'est effectivement, après, voilà, à titre artistique, on va dire, avec la chanson Vaut mieux que ça, la chanson 49.3, le clip de l'une et de l'autre. Et puis, la mise au service un peu de cette lutte-là, de ces morceaux-là, c'est-à-dire voilà, à chaque fois qu'on m'a dit, est-ce qu'on peut la diffuser là, est-ce que machin, moi déjà je les avais mis en téléchargement libre et gratuit pour qu'elles puissent être justement téléchargées le plus possible et qu'elles puissent circuler le plus possible, pour que ça soit des outils aussi d'information, de réflexion, de communication au service de ce mouvement-là. Donc il y avait clairement une dimension politique voulue dès le départ par rapport à ces morceaux. C'est bien que ça ait bien fonctionné. Effectivement, je les ai entendus assez régulièrement en manif. Et pour ce qui est de mon expérience personnelle des manifs, c'était très enrichissant, même si c'était très dur. Notamment le temps avançant, notamment le 14 juin, celle de la manif du 14 juin, c'était une des plus violentes que j'ai jamais vécues de toute ma vie, je veux dire, tout mouvement social confondu, pas juste dans le mouvement contre le travail, mais la répression policière était croissante, a été dès le départ très violente, mais croissante, donc ça n'a pas cessé d'empirer à chaque manif, avec des effectifs toujours plus nombreux, plus déterminés, plus violents dès le départ. Et le 14 juin, c'était un peu l'apothéose. Il y avait beaucoup de monde à la manif, mais il y avait beaucoup, beaucoup de policiers aussi. Et très, très rapidement, les flics ont chargé, tabassé des gens. Il y a eu le type dont on a pas mal vu les images tourner, qui s'est pris apparemment une grenade lacrymo dans la nuque. Qui a eu un trou de 6 cm, je crois, au niveau quasiment de la moelle épinière, donc, dont on n'a pas de nouvelles, on ne sait pas ce qu'il est devenu, mais qui était étendu inconscient à terre. Il y a eu quelques minutes après, dans les gens qui essayaient de lui porter secours, un photographe qui s'est pris un coup de matraque télescopique sur la tête et qui est aussi tombé inconscient à terre. Et puis, moi, ce jour-là, j'étais à un endroit où toutes les 5-10 minutes, il y avait quelqu'un qui se mettait à hurler parce qu'il avait pris un éclat de grenade de désencerclement dans les jambes. Donc c'était vraiment très anxiogène. Vraiment très anxiogène comme climat. Et moi, c'est la manif où j'ai eu le plus peur. Et j'ai eu tellement peur que quand je suis rentré chez moi, je me suis demandé si j'allais retourner en manif. Et j'étais pas le seul. On était pas mal dans ce cas à se dire est-ce qu'on y retourne ? Parce que vraiment, c'était le moment à partir duquel je me suis dit quoi que je fasse en fait. Il y a le moment où on se dit bon, stratégiquement, je vais choisir ma place dans la manif et puis mon mode d'être dans la manif, mon mode d'action, ma manière d'y être, et qui va me donner un sentiment de sécurité plus ou moins grand en fait. On pense ça en fait. Et il est arrivé ce moment où on se dit quoi que je fasse, quelle que soit ma place dans la manif, quel que soit mon mode d'action, je risque de mourir. Voilà ce qui est, et je le crois vraiment. Hein, je crois vraiment que c'est le cas aujourd'hui. C'est le cas dans les manifs. En tout cas, c'est beaucoup ont frôlé la mort. Même s'il n'y a pas encore une mort, donc on n'en parle pas parce que tant qu'il n'y a pas de mort, tout le monde s'en fout. Enfin, dans les médias dominants, en tout cas, il n'y a pas encore de nouveau Rémi Fraisse. Mais franchement, on n'est pas passé loin à beaucoup de reprises. Et au-delà du fait qu'il n'y ait pas eu de mort, il y a eu beaucoup de mutilés, de blessés très graves qui garderont des séquelles toute leur vie de ces manifestations, des yeux perdus, mais pas que. Donc c'est vrai que ça donne un sentiment d'insécurité tellement fort que ça fait réfléchir en fait. Est-ce qu'on y retourne? Est-ce que c'est la modalité d'action la plus souhaitable stratégiquement, etc., si on veut garder des troupes nombreuses et en bon état de santé et en vie? Voilà, moi c'est un peu l'expérience que j'en ai fait. Après, je disais que c'est très très enrichissant parce que j'ai aussi vu ce fameux cortège de tête dont on a un petit peu parlé, peut-être moins dans les médias dominants, mais
est-ce que tu peux préciser, ouais, parce que moi-même j'en ai pas entendu parler.
Alors le cortège de tête, du coup, ce qu'on a appelé cortège de tête dans ce mouvement, c'est en gros une composante spécifique à ce mouvement-là qui rompt un peu avec les mouvements sociaux précédents contre la réforme des retraites, contre le CPE, etc. pour l'instant on n'avait pas encore eu ça. Et là en fait, au lieu qu'il y ait un cordon syndical qui fasse tampon entre la tête de cortège de la manif et la police, c'était plus le cas du tout. En fait, ce qui se passait, c'est que la tête de cortège de ces manifestations était systématiquement composée par les éléments les plus déterminés, en réalité, à ne pas baisser la tête devant la police, à ne pas reculer, à pouvoir, pourquoi pas, des fois imposer notre propre parcours, c'est-à-dire partir en manifestation sauvage pendant les manifestations, et surtout, encore une fois, ne pas montrer une grande détermination face à la police, pas seulement du coup face à la loi travail, mais face à la police, dont Cortège estimait qu'elle était l'instrument de répression et de maintien du pouvoir et de l'ordre existant, donc de l'ordre capitaliste. Et cette détermination était sévèrement réprimée et punie par la police, et ça va sans dire. Donc ce cortège, il avait beaucoup d'intérêt pour moi. L'un des intérêts, c'est que il était composé de gens très divers. Il y a des gens qui disaient c'est les totos, c'est les autonomes, c'est les anarchistes, c'est les libertastas, mais en vérité il y avait des anarchistes, des communistes, et des gens divers et variés. Il y avait des vieux, des jeunes, beaucoup de filles. Et qui, je le précise parce qu'on le sait pas, étant donné que les gens sont beaucoup masqués dans ce cortège. C'était l'endroit de la manif où les gens étaient masqués avec des lunettes de piscine, des fois un masque de piscine, un masque à gaz parfois aussi, des capuches, des habits noirs. L'idée étant d'être indifférencié et de ne pas être
visible
et identifiable par la police, par les drones utilisés par la police, parce que plusieurs fois il y avait les drones, par l'hélico, etc. Et puis pour les lunettes de plongée, les lunettes de piscine et le masque à gaz, l'idée étant de se protéger des assauts constants de la police. Pour le coup, des lacrymos, ça on en a bouffé comme en veux-tu en voilà, et pas que ça, mais c'était je dirais à un moment donné c'était devenu le minimum vital. En fait, pour se rendre en manifestation et sortir pas trop amoché, il fallait au moins ça. Et moi-même qui ai commencé les manifs sans ça, comme beaucoup, et je me suis vite rendu compte que en fait c'était pas trop possible. Enfin, si t'avais pas envie de respirer tout le temps du gaz lacrymo et de pleurer, d'avoir envie de vomir, etc., et de faire des malaises éventuellement, il fallait t'équiper, quoi. Donc, du coup, le cortège de tête, c'est ce groupe qui décidait de s'équiper en conséquence de la répression policière, de tenir tête à la police, de ne pas baisser les bras, etc., et de jouer ce jeu de l'indifférence, c'est-à-dire le fait d'être, vestimentaire, d'essayer d'être le moins possible facile à distinguer par la police, qui fait un travail de fichage, effectivement, des militants, comme on le sait, quoi. C'est voilà, vrai. Et ça c'était l'un des éléments politiquement marquants de ce mouvement-là, et qui l'ont vachement enrichi, qui était vraiment très intéressant.
Ça fait un peu penser que vous avez inversé le côté traditionnel, c'est plutôt les Black Blocs à la fin du cortège, en tout dernier, et là c'était plutôt des manifs assez offensifs, puisqu'on place les éléments actifs en tête. Après,
alors c'est les éléments offensifs qui s'y plaçaient, hein.
Ouais.
C'est-à-dire que le cortège syndical n'était pas forcément du tout d'accord avec ça, à l'intersyndical. Et d'ailleurs, il y a eu des manifs où il y a eu des frictions, voire des bagarres entre le service d'ordre, parfois de la CGT et des FO, et les éléments du cortège de tête, quoi. Ça arrivait que, par exemple, il y a eu deux manifs où le service d'ordre était équipé de casques, de battes de baseball, de battes en bois, de gazeuses par la police, et de matraques télescopiques que les flics leur avaient filées pour taper sur les gens du cortège de tête. Et là, ça s'est très mal passé les deux fois. Bon, après ça s'est arrêté au bout d'un moment, ils sont redevenus un peu moins hostiles, même si de toute façon il y a toujours une certaine hostilité vis-à-vis de tous ceux qui ont dans leur, enfin je veux dire, parce que c'est pas juste le fait de jeter des choses, hein, mais c'est aussi même rien que les banderoles, rien que le message, rien que l'attitude du cortège de tête déplaît beaucoup aux directions syndicales, parce que c'est un message hostile à l'État, hostile à, voilà, enfin bon, donc ça joue plus le jeu du républicanisme, quoi. Et pour autant, ce qui était intéressant, c'est que dans le cortège de tête, il y avait pas mal de syndicalistes, en fait, des syndicalistes qui pour le coup se retrouvaient plus à leur place à cet endroit-là, que dans le cortège syndical derrière le camion frites merguez de la CGT quoi. Et ça c'était intéressant. Et donc encore une fois voilà, il y avait des jeunes, des vieux, des femmes, des hommes, des syndicalistes, des non syndiqués, des éléments plus de sensibilité plus libertaire autonome, d'autres pas forcément, mais en tout cas. Et puis des éléments plus actifs et d'autres moins aussi. C'est-à-dire que dans le cortège de tête, il n'y avait pas que des black blocs. Enfin, je veux dire, en tout cas, il n'y avait pas que des gens. Tout le monde ne jetait pas des projectiles sur la police quand ils étaient assaillis par les policiers, quoi. Ou tout le monde ne passait pas à l'acte pour la casse des publicités qui jalonnaient le parcours de la manifestation ou des enseignes capitalistes. Mais, loin de là, ce qu'il y avait par contre, c'est une grande solidarité dans le cortège. C'est-à-dire que ceux qui cassaient étaient soutenus et très explicitement par le reste du cortège. Et ceux qui ne se sentaient pas de passer à l'acte et d'aller casser des enseignes capitalistes Skoda ou des pubs JC Deco sur le trajet ou les pôles emploi ou les agences bancaires, alors ça c'était une des cibles favorites du cortège de tête, ceux qui ne se sentaient pas d'aller le faire, en tout cas encourageaient, applaudissaient, chantaient pendant que les autres le faisaient et essayaient de tenir à l'écart les forces de l'ordre pour leur rendre possible cette modalité d'action là aussi. Et il me semblait que le fait de multiplier comme ça les modalités d'action et de créer cette solidarité entre des gens qui ont des pratiques différentes, des sensibilités différentes et qui se sentent pas forcément tous de faire la même chose, mais de créer cette solidarité et qu'ils puissent tous agir ensemble dans un même sens politique, ça me semblait très précieux quoi. Et je trouvais ça très intéressant. Alors par contre, clairement, ce cortège-là, sa réussite politique, en un sens, il l'a payé très cher. C'est-à-dire que c'est lui qui faisait le plus les frais des assauts policiers voilà, à coups de centaines de grenades de désencerclement, de flashballs, de tabassage à coups de matraque télescopique, etc. Enfin, perpétuellement sous les lacrymos, c'était pas facile d'y rester quoi. Mais il y avait une vraie volonté politique de qui, à mon sens, pour le coup, bah, faisait sens justement là-dedans.
Ouais, donc je voulais juste dire qu'il y a eu une émission la semaine dernière en fait sur ces répressions qui avait été fait par les amis d'Orwell, donc vous pouvez retrouver soit sur le site Souriez vous êtes filmé ou sur encore 2-3 semaines sur le site de Radio Libertaire sur la partie agenda. C'est le même créneau que nous en fait, c'est les amis d'Orwell qui font beaucoup de choses sur la répression et sur aussi les mouvements que ce soit la ZAD etc. ou les mouvements écolos. Et donc là, ils avaient fait vraiment une émission assez intéressante sur la répression, les suites de la répression aussi, pas mal de gens qui sont passés en procès ou qui vont passer en procès dans les prochains jours. Et donc voilà, je vous conseille d'aller écouter les amis d'Orwell. Et là, on va passer à un autre morceau et on en reparle un petit peu après. Ça s'appelle « Le livre de la jungle ».
Les chasseurs font le malheur des oiseaux migrateurs. Le législateur lutte nuit si tu fuis les dictateurs. Si pour ta propre survie t'as dû partir ailleurs, dû fuir la peur au vent de fuir le pire, les tirs ailleurs. Fuir ce qui te nuit, ta peur, te réfugier, c'est le sujet. Et tu le sais, révulsé à l'idée de te faire expulser. Mais tu sais, de voir que tes malheurs, tu dois t'en excuser. Et user, d'ouïr les préjugés, fuser et récuser. Ton périple, ils s'en foutent, ils vont t'appeler migrant. T'as vu des trucs terribles en route, ils t'accueilleront en dénigrant. En médisant et séduisant les petites gens, le président. Et les types en charge en rage rêvent de te voir t'éclipsant. Ce pays censé t'accueillir a l'air d'être hésitant. T'essaies de rester vivant, ça risque de ne pas être évident. Vu que t'es mis dans un lieu délirant, évident, des conditions évitant que t'es dans l'idée d'être résident. Quand ils s'en sont allés, quand ils ont dû l'étaler, pour fuir des balles et pas laisser leur peau pas se faire étaler. S'ils n'attendaient pas les palais, s'attendaient-ils à saler? Migrants à un malaise, si grand une addition si salée. Savaient-ils qu'ils seraient balés, mais qu'ils seraient palés? Bien vu qu'on ne saurait pas les installer là comme il fallait. Se rire calé, traqué, frappé par des faves et marqué, pas épargné par les armes et parqué dans un camp à Calais. La France, terre d'asile de fous, pas d'asile politique. Où l'on se fout de vous, l'on voit où c'est chronotypique. Où tout joue contre vous, où l'on vous boule au profit de flics. Où l'on vous voue aux maudites triques, à leurs assauts cycliques. Où l'on vous oblige vite aux sinistres, donc ministres et aux types qui nous administrent, vous destinent. C'est tout dit triste, sans
sans eau ni vitre. Et trop petit puisqu'on les stocks dit type. Des blocs typiques, des choses iniques. Les hommes cyniques au pouvoir vont vouloir vous faire. C'est qu'ils sont vénères. Ils voudraient pouvoir vous voir tous dans ces containers. 12 mètres carrés pour 12 mètres casés. Le compte est clair. 1500 personnes ainsi entassées vont manquer d'air. Malgré la technique biométrique qui à l'entrée sert à filtrer, faire le boulot des flics. On peut dire qu'en précaire, on peut dire qu'on est guère. Accueillant avec les gens chez qui on déclenche des guerres. Rentrer chez vous on préfère. Quand ils s'en sont allés, quand ils ont dû l'étaler. Pour fuir des balles et pas laisser leur peau pas se faire étaler. S'ils n'attendaient pas les palais, s'attendaient-ils à saler. Migrant à un balai, ciment une addition si salée. Savait-il qu'ils seraient balés, mais qu'ils seraient balés. Bienvenue qu'on ne saurait pas les installer là comme il fallait. Ils seraient recalés, traqués, frappés par des faves. Et marqués, pas épargnés par les armes. Et parqués dans un camp à caler. Entre le fait que des pas de maison, les agressions, les tas de pression, l'état et son bras armé, que sont les flics, y'a de quoi perdre la raison. À caler monte l'attention ainsi que les adhésions à l'extrême droite et son discours qui convient fort bien à des cons. Citoyens, citoyens, plutôt que songer à des dons. Ils font dans l'agression, s'armer font, grave lésion. Assez bon, somme, ça c'est con, vu qu'ils se font pas des bons. T'es de manière éhontée par les cons dès qu'ils les malmèneront. Entre les matraquages par la police, tabassage, les fâches aussi, stématisent les droits que là-bas ils abolissent. Entre les tas de saccages qu'ils démolissent, à ceux qui détenaient l'office, rien tant de gens les terrorisent et les maudissent. Tout est propice à l'oubli quand elle a un tout petit. Et trouver crevé sur une plage, tout le monde chiale ou crie. Hélas pour ce qui est des gazoufiques, la route fit atterrir dans la jungle, là on s'en fout sauf dans le cas de Mougli. Ils s'en sont allés, quand ils ont dû l'étaler. Pour fuir des balles et pas laisser leur peau pas se faire étaler. S'ils n'attendaient pas les palais, s'attendaient-ils à saler. Migrants à un balai, ciment une addition si salée. Savaient-ils qu'ils seraient balés, mais qu'ils seraient balés. Bienvenue qu'on ne saurait pas les installer là comme il fallait. Ils seraient recalés, traqués, frappés par des faves. Et marqués, pas épargnés par les armes. Et parqués dans un camp à caler. Quand ils s'en sont allés, quand ils ont dû l'étaler. Pour fuir des balles et pas laisser leur peau pas se faire étaler. S'ils n'attendaient pas les palais, s'attendaient-ils à saler. Frappé par des faves et marqué, pas épargné par les armes et parqué dans un camp à caler. Caler, 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 caler.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4 FM. On est là jusqu'à 22h30, c'est l'émission Offensive Sonore et on est avec Naïm encore une fois parce que c'est pas la première fois que tu viens.
C'est pas la première.
Donc merci, on te remercie pour venir si souvent.
Merci à vous pour m'accueillir si souvent aussi.
Et donc là on a passé une chanson d'actu puisque ça parlait de Calais qui a déjà été évacuée. Donc après est-ce que les gens vont pas revenir au même endroit, on s'en sait pas encore, mais en tout cas il y a eu une intervention policière il y a peu de temps. Je pense que c'est à cette occasion là ou un peu avant quand tu le savais que tu as fait cette chanson.
Non, c'était il y a un peu plus longtemps en vérité. Dès que je me suis pas mal documenté sur ça, pas mal lu d'articles, de témoignages là-dessus, et j'ai été vraiment très très touché, très ému par tout ça. Je trouvais il y avait tellement, à la fois tellement de scandales là-dedans, et en même temps une relative indifférence justement la classe politique qui joue le jeu qu'elle a à jouer, hein. Elle joue son rôle en un sens, enfin le rôle que certains attendent d'elle, mais une indifférence aussi des médias et puis une indifférence des gens, puisque ce qui s'est passé avec la loi travail, on peut s'en féliciter, on peut aussi le déplorer d'un autre côté, c'est que ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ce qui est une bonne chose, il fallait que le vase déborde, mais c'est pas n'importe quelle goutte d'eau qui l'a fait déborder, c'est la goutte d'eau qui pouvait toucher le plus de gens possible de très près en fait. C'est-à-dire que cette loi sur le travail pouvait impacter la vie d'un certain nombre de gens qui pour d'autres se seraient pas mouillés à aller dans ces manifs, etc. Et on l'a vu avec la chasse faite aux musulmans sous l'état d'urgence en octobre-novembre, on l'a vu avec un certain nombre de choses avant, et on l'a vu avec les Roms, la chasse aux Roms, et on le voit avec les migrants à Calais. Tant que ça les touche pas de près, voilà, il y a pas mal de gens qui Après, en vérité,
au contraire, qui sont plutôt hostiles même d'ailleurs.
Oui, voilà, qui sont plutôt hostiles. Et après, je pense que il y a plusieurs. Il faut pas généraliser. Je pense qu'il y a, plein de tendances. Il y a ceux qui sont hostiles parce qu'ils relayent le discours qu'ils entendent répété dans les médias dominants, etc., etc. On peut pas accueillir toute la misère du monde et ils ont qu'à se débrouiller dans leur pays. Enfin, bon, tous les trucs qu'on connaît, qu'on a déjà beaucoup entendu. Après, il y a ceux aussi qui sont pas forcément hostiles, mais en fait, qui pour se protéger émotionnellement. Tiennent à distance ce qui les touche pas de près, justement parce que si jamais ils devaient être profondément touchés par chaque événement qui touchait chacun dans le monde, voilà, c'est, je pense que c'est un peu un raisonnement que peuvent avoir certains aussi, et ça serait invivable. Et en un sens d'ailleurs, enfin moi je reconnais que je fais partie de cela dans une certaine mesure, c'est-à-dire que si j'étais ému par tout ce qui touchait n'importe qui dans le monde de la même manière que j'en serais ému si ça touchait ma mère ou mes proches, la vie serait invivable.
C'est pas possible.
C'est pas possible. Donc, en vérité, c'est aussi une manière de se protéger que de tenir à distance une partie de ce qu'on peut entendre dans l'actualité. Mais après, effectivement, je pense que il faut réussir à faire la part des choses et à savoir aussi là où on peut agir, là où moi par exemple tenir à distance peut-être des choses sur lesquelles on a moins de prise, sur lesquelles qui nous semblent vraiment très lointaines géographiquement, etc., et où on se dit qu'on peut soutenir des luttes qui ont lieu là-bas, mais nous directement agir c'est compliqué, ça d'accord. Après là pour le coup Calais c'est ici, c'est pas loin, regarder ces gens crever là-bas dans l'indifférence la plus totale, avec même l'hostilité de certains des habitants de la ville, la brutalité policière, etc., le mépris politique, le mépris médiatique, etc., bon, c'est insupportable, quoi. Donc du coup ça m'a vraiment touché, et je crois que c'était en avril peut-être que j'ai écrit cette chanson, enfin ça date un peu, c'est mars-avril, un truc comme ça. Je l'ai pas publié tout de suite parce que à la base c'était aussi une commande d'une asso qui voulait faire une compile de soutien en fait, et qui bossait là-bas à Calais avec les migrants, et finalement le projet s'est pas fait, j'ai plus du tout de leurs nouvelles. Du coup, comme le morceau est resté dans les tiroirs pendant un moment, je l'ai essayé relancer plusieurs fois, et puis bah, n'ayant pas de réponse, je dis que voilà, pour le coup c'était encore d'actualité, que j'avais envie de le partager, et que du coup j'ai fini par le publier moi-même sur le Bandcamp de l'Inconsolable, quoi. Mais du coup il a un peu plus de, enfin il est pas tout frais. Mais bon, malheureusement il est toujours relativement d'actualité.
Donc peut-être qu'on peut passer au projet suivant en fait, qui est Rap Game, enfin qui est le projet précédent parce que tu l'as déjà sorti, mais que tu penses encore, je pense, défendre sur les concerts, etc. Et aussi écouler le, parce que tu sais, il y a eu des préventes, mais je pense que tu les as pas tous vendus. Et donc en fait, comme c'est un projet qui date d'assez longtemps, déjà on peut résumer, on en a déjà parlé, on a fait au moins une émission là-dessus. C'était pour dire c'est Rap Game, c'est, faut pas le prendre comme je sais pas, Booba ou PNL l'entendent. C'est un jeu de mots en fait, c'est sur des jeux en fait, c'est vraiment les jeux. Faut savoir que le Rap Game pour les néophytes de rap, c'est un peu concours de la plus grosse beat, hein. C'est genre il suffit pas de bien rapper en fait, il suffit pas d'avoir
concours
des
concours
bons textes,
des plus gros 4x4, des plus gros nichons dans les clips, c'est un peu un espèce de concours capitalisto-sexiste des rappeurs entre eux pour savoir qui c'est qui pèse le plus, c'est-à-dire qui c'est qui vend le plus de disques, qui c'est qui a les plus gros seins dans ses clips, les plus gros 4x4, les plus de
vues. Voir qui c'est qui a la plus grosse bande mafieuse qui le suit pour casser la gueule à l'autre, quoi. C'est
aussi,
à ce niveau-là, quoi.
Aussi, donc bon, c'était une manière effectivement de plaisanter un peu là-dessus et de tourner en ridicule cette expression, parce que moi en vérité je la trouve ridicule, hein, donc l'expression Rap Game, du coup c'était une manière de tourner un peu ça en dérision, et puis effectivement Rap Games, puisque cet album-là consiste en 15 jeux rappés comme tu le disais. Après il y a quand même deux grilles d'écoute, enfin comme on pourrait dire qu'il y a deux grilles de lecture pour un texte. Là il y a une première grille d'écoute où on peut écouter l'ensemble de l'album sans savoir que ce sont des jeux, Et pour autant, c'est des morceaux de rap politique comme j'ai l'habitude de le faire dans les autres albums. Mmh. Donc ça s'écoute en tant que tel. On n'est pas obligé de jouer en fait avec. Mais pour ceux, pour les plus joueurs d'entre les auditeurs, il est possible de jouer avec chaque morceau puisque chaque morceau est en même temps aussi un jeu à solutionner par l'auditeur. Et du coup là, ça va de la charade au texte à trous où il faut combler les rimes manquantes, à un qui est-ce où il faut deviner l'identité de figure politique célèbre, à une adaptation du jeu télévisé Motus, des devinettes en tout genre, etc. Donc l'idée c'est qu'il puisse y avoir ces deux niveaux d'écoute là. Et du coup la version physique de l'album, la version CD que j'avais financée par, comme tu le disais tout à l'heure, par un appel à soutien via un site de crowdfunding, et qui a été, du coup, cet appel à soutien couronné de succès, heureusement, donc j'ai pu publier l'album. La version physique, donc, elle est accompagnée, enfin, le CD est accompagné d'un magazine de jeu, mm-hmm. qui fait une cinquantaine de pages, dans lequel il y a toutes les règles des jeux, les espaces pour jouer, et puis les solutions en fin de livret, comme dans les vrais magazines de jeux fléchés, etc., etc., mm-hmm. le mot fléché, voilà.
Et en fait, ouais, c'est vraiment aussi une parodie de magazine de jeux, ouais. avec les couvertures classiques.
Ouais, on a essayé de garder le côté bien kitsch des couvertures de magazines, effectivement, de mots fléchés, etc. Ouais.
Effectivement. Et en plus, oui, c'est vrai que c'est pas. Donc, c'est un exercice de style assez intéressant, parce que finalement, t'as trouvé plein de jeux, plein de manières de jouer avec des chansons de rap, donc par exemple il y a un rap à trous où les mots sont pas dits, mais bon, on peut les deviner assez facilement si on voilà, ça fait partie du jeu. Il y a plusieurs, je sais pas, est-ce que tu peux détailler certains jeux.
Ouais, il y a aussi des chansons où on joue avec des expressions de la langue française, par exemple un morceau qu'on écoutera tout à l'heure qui s'appelle Bête de vie, dans lequel l'auditeur doit compléter des expressions avec les noms d'animaux manquants, en fait, qui vont avec. Mmh. Donc, il y a dans la chanson est saturée d'expressions utilisant des noms d'animaux, et dans le livret de jeu, les expressions sont d'un côté de la page, de l'autre les noms d'animaux, mais dans le désordre, et il faut les relier, en fait. C'est comme ça existe dans certains jeux aussi. Il y a ça, et il y a le même type de jeu avec cette fois des expressions qu'il faut compléter par les nombres manquants. Ça, c'est le poids du nombre. Mmh. Et là, du coup, c'est des expressions avec les chiffres de 0 à 20, enfin, les nombres de 0 à 20. Et du coup, l'auditeur doit, là aussi, compléter l'expression avec les nombres correspondants. Donc, il y a ce genre de choses. Motus, c'est des mots de 6 à 8 lettres à découvrir, du coup, enfin, qu'il faut découvrir comme dans l'émission télévisée. Après, c'est un peu avec des modalités différentes, vu que là, c'est un morceau de rap, donc je délivre des indices, en fait, au fil du couplet, sur ce mot de 6 à 8 lettres. Des indices en tout genre, sur les lettres qu'il compose, des fois sur la première lettre, sur les manières, différents sens dans lesquels il peut être utilisé, sur son dévoiement éventuellement. Et puis à chaque couplet, l'auditeur doit trouver de quel mot il s'agit, en fait. Mmh. Voilà, il y a ça, il y a donc le qui est-ce dont je parlais tout à l'heure, où il faut deviner l'identité de figures politiques célèbres contemporaines. Quoi d'autre, je sais plus, j'ai pas tout en tête, mais des charades rappées aussi.
Oui, les fameuses charades.
Charades.
Voilà. Ça, c'était sorti aussi sous forme de mini CD.
Maxi, ouais. Il y avait eu un maxi avec les trois charades qui ont depuis été un peu revues, un peu rééditées avant d'être publiées sur l'album. Il y a deux, trois petits détails qui ont changé. Et puis, il y a eu aussi une autre version de charades sur l'album qui s'appelle Charadine, qui sont des charades radines, donc où il y a très peu de temps et de texte, de temps et donc d'indices. Pour deviner à chaque fois le premier, le deuxième et puis le tout. Donc des charades plus difficiles, on va dire. Et pour les auditeurs et joueurs les plus exigeants, j'ai essayé aussi d'en faire pour tous les niveaux, voilà, qu'il y ait des choses un peu assez simples, et puis des choses un peu plus complexes. D'après les retours que j'ai eus, c'est un peu le cas. Il y a des gens qui m'ont dit ça va, c'est super simple, mais ça, par contre, j'ai galéré dessus, etc. Donc tant mieux.
Ok. Et donc il y a des choses en préparation par rapport à cet album. Est-ce que tu veux faire des vidéos?
Alors des vidéos, c'est une question. Ouais, c'est pas encore sûr. C'est pas encore sûr. C'est une question de temps. Ouais, en vérité, je suis pas sûr du tout qu'on ait le temps d'en faire.
Surtout que j'imagine que t'es déjà passé au projet.
Je suis déjà en train effectivement en ce moment de travailler au prochain album. Mais pour autant, par contre, ce qui est prévu par rapport à cet album et qui est déjà en cours, c'est des concerts. Ça, j'en fais très régulièrement tout le temps, avant et pendant et après la sortie de cet album. Mmh. Et donc ceux que je fais depuis sont enrichis d'un certain nombre de morceaux qui sont issus de cet album-là.
D'accord. Tu fais pas non plus une scène complète sur Arab Game.
Non. Après, c'est vrai que ouais, je fais peu ça en fait. C'est vrai que j'ai plus au fil du temps et de ma carrière discographique plus enrichi à chaque fois les concerts de morceaux des nouveaux albums, mais en gardant des morceaux des anciens aussi. Et du coup, les gens qui viennent voir les concerts en général entendent des morceaux de l'inconsolable Brad Brassens, des morceaux de Rap Games, des morceaux de l'inconsolable Les Payés, des morceaux de, enfin voilà, de vraiment.
Ouais, ceux qui marchent le mieux en concert, que t'as pu tester ou.
Ouais, ceux que j'ai plaisir à faire aussi, ceux qui marchent bien sur scène, ceux que j'ai plaisir à faire, je dirais même sur scène.
Tout ne fonctionne pas, ce qui est sur l'album, tout ne fonctionne pas en scène ou c'est. Où tu penses que tu peux tout faire.
Ouais, je me suis quand même essayé à des choses très différentes, quoi. Même y compris à des morceaux plus calmes. On n'est pas obligé de faire que des morceaux qui bougent, des morceaux dansants, etc. sur scène. Hein. Après, non, je pense que je fais des choses assez différentes. C'est plutôt, à mon avis, plus relatif à mon plaisir. Mmh. Et au fait qu'à un moment donné, j'ai beaucoup joué certains morceaux pendant des années et que j'en ai un peu marre, voilà, et que j'ai envie d'en jouer d'autres, des nouveaux en fait. C'est plus comme ça que ça se passe. Et puis aussi quand je viens de finir un projet, de le porter, de l'écrire, de le composer, de passer du temps à le concevoir, j'ai envie de le porter sur scène et de le partager avec les gens au moyen de la scène, qui est quand même un moyen plus direct, peut-être plus chaleureux aussi, d'avoir le retour du public là-dessus. Donc voilà, c'est un peu dû à tout ça.
Est-ce qu'on peut passer un morceau donc là c'était
Bête de vie.
Bête de vie, voilà. Le morceau de l'album Grab Games.
Sans boulot, je suis comme un poisson dans l'eau et gay comme un pinson. J'appelle un chat, qu'on ne m'accuse pas de noyer le poisson. Ils me voudraient tout comme un agneau et j'ai une cervelle de moineau. Et ils montent tous sur leurs grands chevaux, ils font de l'équitation. Ils voudraient me voir en action, je suis lent comme un limaçon. Ils me dépassent pour des queues de poisson, ils voudraient que je morde à l'hameçon. Ils voudraient que je bosse comme un con, mais je dors comme un loir. Ils voudraient me voir être le dindon de la farce, hélas, ça me fout le cafard. Imaginez, magie, t'es m'excité comme une puce. Si t'es prêt à taffer plus pour gagner plus, c'est suspect. Quelle mouche t'as piqué, moi ça me file la chair de poule. Vu que je suis comme un coq en pâte, ça me foutrait donc bien les boules, qu'on me coule et qu'on m'appâte. Mais pas de quoi t'inquiéter, je suis rusé comme un renard. Têtu comme une mule, malin comme un singe et chante traquenard. Sortir par un froid de canard, puis être serré comme des sardines. Dans un métro, il y aurait trop de connards ou trop sales mines. Pour que je m'incline, il faudrait que les poules aient des dents éléphants, des ailes et que les poissons rouges aient une mémoire d'éléphant. Pour que je me jette dans la gueule du loup, au lieu de montrer des dents, au lieu de cravache et ses peaux de vache, toi lâche, au lieu d'être véhément. Non mais vraiment, que je cours comme un lapin tous les matins. Je trouve pas ça chouette et j'ai d'autres chats à fouetter, je pose un lapin. Au scélérat, qui se disent on le verra fait comme un rat. Ils ont une faim de loup mais ne mourront pas. Et je crie hurrah, ça mange pas de pain. Les loups. Des gens bêtes croient que je m'embête depuis. Je suis en retraite, moi je mène une bête de vie. Ils me voient comme une bête de foire. Me croient bête et pensent que je foire. Ma vie vu que je dors comme un loir. Mais je dors sur une bête de lit. Ils suspectent que ma vie fouette depuis. Si je fais plus de siège, je dors de jour comme de nuit. Leur bête noire, pour eux je fais pas mes devoirs. Voudraient me priver de manger et de boire, mais moi je mène une chouette vie. Ils voudraient tant que j'échoue, que je ménage la chèvre et le chou, que comme Jésus je tende les joues, mais je montre les dents, je fais le loup. Il y a anguille sous roche, leur vie tient m'ennuie tout cloche, je veux pas y être pile ou proche, d'autant qu'ils me cherchent tant des poux. Ils voudraient que j'hurle avec les loups, j'hurle à la lune, que leur bagou me fasse un effet bœuf et me fout à la thune. Mais je suis connu comme le loup blanc, comme n'en foutant pas une, comme étant paresseux tout le temps, comme une couleuvre j'assume. Je suis le canard boiteux, la brebis galeuse, vilain petit canard, canard marnard. J'ai dans l'eau marécageuse. J'ai envie de crier mort aux vaches. Déserter la pointeuse. Qu'est pas un chat pour aller se tuer à la tâche pour leur boyeuse. Ils nous prennent pour des pigeons. S'en prennent à nos bichons. On peut dire qu'ils veulent nous réduire à des tranches de fleuris michons. Ils pensaient rire comme des baleines. Pour se rétalter la fin de garenne. À courir mais leur plan bat de l'aile. Car leurs genoux pigeons. Pas besoin d'être fine mouche pour tout ce qui touche à l'oseille. Voir d'autres courir après nous a mis la puce à l'oreille. Valo à la bouche. Il faudrait être un âne quand ce serait louche. Être diable comme une taupe pour ne pas voir sur quoi ça débouche. Les gars arrivent frais comme des gardons. On se retrouve avec le bourdon, à suivre comme des moutons les ordres des patrons. Je crois qu'on la vit une araignée au plafond qui m'embaucha. C'est pour expliquer le choix de marcher au pas, je donne ma langue au chat.
bête et pense que je foire ma vie vu que je dors comme un loir, mais je dors sur un bête de lit. Ils suspectent que ma vie fouette depuis. Je fais plus de siège, je dors de jour comme de nuit. Je deviens depuis leur bête noire. Pour eux, je fais pas mes devoirs. Voudrais me priver de manger, de boire, mais moi je mène une chouette vie. Quand je repense au table, j'ai un chat dans la gorge, j'ai plus de voix. Je me revois muet comme une carte quand le chef criait comme un putois. Je me revois devant son bureau, faisant le pied de rue, montré du doigt. Craignant comme un blaireau, tu dois te barrer, on veut plus de toi. Par chance, j'ai filé comme un lièvre, le tarp m'avait mis la fièvre. Une fièvre que je fallais pas de trêve, qu'il fallut, je crois. Mettre un terme à une carrière déjà brève, avant que tout ça ne m'achève et ne me fasse devenir chèvre, avant que ne me plume quoi. Ma vie était plate comme une limande, tape marcher sur mes plates-bandes. Ils auraient voulu que j'attende, que je fasse le touche et que je me fasse prendre la peau de l'ours, d'aller la vendre. Au pas de course, j'avais pas le temps de rester lent. Comme l'escargot topé par vos demande d'être fort comme un bœuf, de prendre le taureau par les cornes, d'avoir un caractère de cochon et d'être borné, d'être un ours mal léché, nom d'un chien désenvoyé chier. Même nu comme un ver libre, comme l'air on se sent allégé. Des langues de vipères dont le pays se met à grouiller, voudraient me tirer les vers du nez, me faire avouer. Le torque jué suggère que je suis une poule mouillée. Là je suis fier comme un coq d'échapper à ce à quoi on m'a voué. Faut gueule les mouettes, j'ai plus de couleuvres à avaler. J'ai beaucoup d'œuvres à râper, aux cornes beaucoup d'heures à bailler. Vous pouvez prendre la mouche, me sur mon canapé, y'a pas de lézard, j'mets le pédard et le reste on verra après. Des gens bêtes croient que je m'embête depuis. J'suis en retraite, moi j'mène une bête de vie. Ils me voient comme une bête de foire, me croient bête et pense que j'foire. Ma vie vu que j'dors comme un loir, mais j'dors sur un bête de lit. Ils suspectent que ma vie fouette depuis. J'fais plus de siège, j'dors de jour comme de nuit. Leur bête noire, pour eux je fais pas mes devoirs. Voudrais me priver de manger, de boire, mais moi je mène une chouette vie.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. On vient d'écouter Comme des bêtes.
Bêtes de vie.
Bêtes de vie. Comme des bêtes, c'est un film, un dessin animé. Voilà, et Bêtes de vie se trouvait sur l'album Rap Game de L'Inconsolable. Mm-hmm. Un album physique, hein, il y a
un album physique avec le CD, le magazine de jeu, effectivement, qu'on peut se procurer, comme on le disait tout à l'heure, soit en m'envoyant un mail à l'inconsolable, donc L minuscule, le chiffre 1, consolable tout attaché, @hotmail.com, soit en passant par le site l'inconsolable.com, par la rubrique contact, voilà, en me contactant. Et sinon, il est aussi en version numérique sur le Bandcamp de l'inconsolable.
Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des concerts, on peut aller te voir,
hein? Alors ouais, il y en a. Alors les prochains concerts, attends que je me souvienne, il y a le 14 octobre à la Seyne-sur-Mer, SEYNE, c'est dans le Var. Il y a le 20 octobre, me semble-t-il, à Lausanne en Suisse, à l'université de Lausanne. Il y a quoi d'autre? Le 16 octobre aussi. Dans le cabaret, je crois que ça s'appelle le cabaret d'urgence. C'est une journée créée par la compagnie Joli Môme pour contre la répression policière des mouvements en cours.
C'est à Saint-Denis, c'est ça, Plaine Saint-Denis.
Alors je crois que là, il me semble qu'ils le font dans une autre salle, la salle de l'épée de bois, quelque chose comme ça.
D'accord, à Vincennes.
Alors. Ouais, voilà. Il me semble qu'ils le font là. À vérifier, mais. Je pense que de toute façon, les auditeurs trouveront facilement des renseignements dessus en tapant cabaret d'urgence, compagnie Joli Môme.
D'habitude, c'est des Joli Môme qui jouaient à la cartoucherie à Vincennes. Donc c'est peut-être.
Ouais, moi, je crois que ça dépend des fois, mais du coup là, par contre, c'est pas un concert de l'inconsolable, c'est une journée de discussion, de débat, d'intervention et un peu d'interludes musicaux. Et il y aura beaucoup de monde et moi, je ferai deux morceaux, quoi, voilà, un ou deux morceaux.
D'accord.
Mais pour les concerts, donc c'est, je disais, la Seyne-sur-Mer, Lausanne. Il y a le 21 janvier, je crois aussi. En soutien aux zadistes et contre le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et là, ce sera. J'ai plus le nom du village exactement en tête, puisque c'est un nom breton, c'est compliqué. Mais
c'est en Bretagne.
C'est pas loin de. C'est pas très loin de là-bas. Je le mettrai sur mon site, de toute façon, pour les auditeurs là, qui du coup voudraient retrouver l'info. Elle sera. Si c'est pas déjà le cas, elle sera mise en ligne sur la rubrique concert du site inconsolable.com très rapidement.
Voilà. Ouais, je disais ça parce que ça peut être aussi un moyen d'aller le voir et de,
bien sûr,
et de prendre directement le CD sur place.
Ouais.
Et donc là, on voulait parler d'un projet futur.
Ouais.
On va parler un peu pendant la pause musicale. Mm-hmm. Donc un peu dans la lignée de l'exercice de style et aussi du jeu, c'est. Donc là, tu reprends plus les livres dont vous êtes le héros, quoi.
Alors là, du coup, structurellement parlant, oui, en fait, c'est-à-dire que ce sera un album dont vous êtes le héros, sur le modèle de ces bouquins où, à chaque fois, un paragraphe ou une page énonce une situation au terme de laquelle le lecteur fait un choix. Mm-hmm. Et en fonction du choix qu'il fait, on le renvoie à telle ou telle page du livre. Mm-hmm. Pas la même. Et donc, il a plusieurs manières de parcourir le livre et l'histoire. Il manque à chaque fois des parties et puis on découvre des nouvelles à chaque fois qu'il rejoue avec le livre. Mmh. Là, c'est un peu la même idée avec l'album. Sauf que cet album a aussi la particularité de se baser sur un écrit préexistant, celui de Georges Perec. Un écrivain fameux de l'Oulipo qui avait notamment écrit La Disparition, le roman de 400 pages sans la lettre E. Mm-hmm. Et il a publié un texte qui s'appelle donc L'art et la manière d'aborder son chef de service pour lui demander une augmentation, dans lequel il essayait d'imaginer tout ce qui pourrait arriver à un employé qui déciderait dans une entreprise donnée d'aller voir son chef de service pour lui demander une augmentation. Il avait pour ça conçu un organigramme qui avait en fait piqué à une entreprise, un vrai organigramme qui existait. Il avait remplacé simplement les contenus en fait de l'organigramme par les siens. Et du coup, en essayant de penser toutes les possibilités qui pouvaient advenir, des plus on va dire
absurdes,
ouais, des plus, enfin j'allais dire, j'ai terminé par ça du coup. Mmh. des plus triviales aux plus absurdes. Mmh. Donc c'est un texte très drôle, c'est une seule phrase sans ponctuation, que je vais pas reprendre telle quelle, parce que comme pour Brassens, il y a le problème de l'adaptation au rap et du fait de pouvoir justement jouer avec les rythmes, les sons, les rimes internes, etc. Mm-hmm. Donc évidemment, j'ai pas laissé le texte en l'état. Par contre, ce que je reprends, c'est je pars vraiment de la structure de son organigramme, et j'essaye de refaire un peu en rappant cette aventure de l'employé qui voudrait être augmenté. Pourquoi j'ai choisi ce texte? Parce que là encore, ça recoupait ce thème qui m'est si cher du travail. Mm-hmm. Et je trouvais que Perec en parlait très bien dans ce texte, parce qu'il en parle avec beaucoup d'humour, de manière très drôle, un peu légère à la fois. Et en même temps, en fait, l'air de rien derrière l'humour, le texte dit toute l'absurdité du travail en entreprise, des relations qui s'y nouent, etc. Mm-hmm. De la relation hiérarchique aussi. Ouais, donc moi, en fait, je le trouvais à la fois très drôle, mais à la fois très très pertinent, en fait, ce texte sur le travail. Et du coup, c'était l'occasion d'y revenir par le jeu cette fois, et d'avoir en plus une nouvelle manière de jouer pour l'auditeur, qui serait justement de parcourir l'album de différentes manières. L'album se verra probablement décliné sous la forme d'un site web, en fait, où une page égale une chanson. En bas de la page, un choix à faire, deux boutons, et en fonction du bouton sur lequel on clique, on est renvoyé vers telle ou telle page du site, comme pour le livre, du coup. Et il y aura, je pense, une soixantaine de plages sur l'album.
D'accord, voilà. C'est un long projet.
C'est un gros projet, du coup, voilà, qui est en état d'avancement, mais qui est en cours, en fait, depuis un moment. Hein. J'ai regardé les premières chansons, j'ai commencé à les écrire début janvier 2015. Après, il y a eu une longue pause où je me suis occupé de Rap Games et puis d'autres choses, des inédits, On veut mieux que ça, 49.3, donc j'ai mis un peu ça en stand-by. Et là, j'ai repris plus sérieusement dès que j'ai fini Rap Games dans l'été. Mm-hmm. Je pense et j'espère que le projet sortira normalement, si tout se passe bien, d'ici fin 2017, quoi. On va dire rentrée 2017, entre septembre et décembre 2017. J'espère plutôt vers septembre. Mais voilà.
Donc là, il nous reste peu de temps. On va passer directement au dernier sujet. Ouais. Parce que je sais que ça faisait longtemps que tu y pensais, en fait. Et là, il y a une émission de radio. Malheureusement, sur une, faut pas dire vraiment concurrente, nos amis de Fréquence Paris Pluriel, donc qui ont beaucoup d'excellentes émissions, L'Envolée, etc. Mmh. Beaucoup de, je pense aussi au fond du radiateur sur les, au fond de la classe, à côté du radiateur, je crois que c'est ça le titre de l'émission, qui fait tous les midis fait la part belle aux mouvements sociaux, etc., aux débats. Donc c'est vraiment une excellente radio, c'est pour ça que je disais concurrent avec le sourire. Et donc tous les mois maintenant, tu as un podcast. Ça a démarré, je pense, sur le net seulement.
Alors c'était, voilà, ouais, ça a démarré sur le net sous forme de podcast, le temps que effectivement je trouve une antenne qui puisse diffuser cette émission. Il se trouve que donc Fréquence Paris Pluriel m'a proposé de le faire. Et du coup, ça se fait tous les mois,
dans la nuit du premier jeudi au vendredi du mois. Mmh. Dans la nuit, puisque c'est l'émission est de, je crois que c'est une heure et demie à trois heures et demie, il me semble. Mmh. C'est une émission de deux heures et qui s'appelle donc Rapology en trois mots. Mmh. Qui s'appelle comme ça parce que j'ai commencé à la diffuser depuis chez moi en fait. Mmh. Dans laquelle l'idée était et est toujours de rendre visible un autre type de rap que celui qu'on entend à longueur de journée et de nuit sur les ondes des médias mainstream, sur Skyrock, en télé, etc. Un rap invisibilisé par les médias dominants, hélas, et qui pourtant est riche justement de vraiment plein de choses. Mm-hmm. Donc moi, c'était aussi voilà, au fil des discussions avec des gens à la fin de concert qui me disaient je déteste le rap mais j'adore ce que tu fais, ce genre de choses. Mm-hmm. Et avec, en fait, je me rendais compte en discutant avec eux que finalement ils en connaissaient très peu sur le rap, et du coup je me rendais compte finalement ce qui leur faisait défaut, c'était vraiment la connaissance du rap. Donc petit à petit, des gens me disaient, mais c'est dommage, faudrait que tu fasses une émission, parce que j'essayais de donner des références aux gens, etc. Et je me suis dit, bon, c'est vrai qu'il, enfin, je pense que ça manque aujourd'hui. Mm-hmm. Autant ça existait beaucoup à une époque, autant aujourd'hui on manque de ça. Donc, voilà un peu le projet. Et il y a une partie de l'émission qui est consacrée au rap non francophone. Pour l'instant, majoritairement anglophone, mais il pourrait y avoir autre chose aussi. Et anglophone, donc pas seulement américain, mais voilà, anglophone américain, il y a du rap anglais, du rap australien, néo-zélandais, enfin bon. Et puis une deuxième partie de l'émission qui elle est consacrée au rap francophone. Mm-hmm. Voilà, pour l'instant c'est un peu sur, on est un peu sur deux tiers, un tiers, en gros deux tiers de rap non francophone, un tiers de rap francophone.
Et donc il y avait des émissions thématiques, mais je crois que c'est pas forcément le but, c'est de mélanger un peu les sujets. Enfin, tu fais deux parties vraiment distinctes.
Ouais.
Il y a le rap français qui dure un peu moins longtemps,
peut-être
par rapport au contenu aussi. Le rap américain est beaucoup plus large, je sais pas pourquoi.
Oui, il y a plus de choses qui sortent de fait. Le pays est plus grand. Enfin, les États-Unis, voilà, c'est les États-Unis.
C'est aussi le pays du hip-hop, hein, aussi.
Et puis voilà, c'est en plus. Donc il y a vraiment énormément de choses qui sortent là-bas, y compris et surtout d'ailleurs dans l'underground, dans ce qui est pas forcément justement non plus relié par les médias dominants. Donc il y a beaucoup de travail de veille à faire que j'essaye de faire le plus possible depuis toujours parce que ça m'intéresse en tant qu'auditeur de rap et en tant que rappeur. Et effectivement, il se trouve que, et puis après ça reflète aussi ce que j'écoute. Je pense que voilà, j'écoute plus de rap anglophone que francophone. Peut-être parce qu'il y en a plus, peut-être aussi parce que d'un point de vue du travail sur le flow, sur les structures rythmiques, au niveau des sons, etc., dans les phrases, je trouve plus de choses qui me touchent, en fait, même s'il y en a dans la francophone, mais enfin voilà, globalement, je pense que ça reflète aussi ce que j'écoute, quoi. Mais en tout cas, voilà, l'idée c'est ça, et du coup, c'est maintenant à la fois sur Fréquence Paris Pluriel, donc en début de mois, la nuit du jeudi au vendredi, premier jeudi au premier vendredi du mois, et après, tout de suite, dès le lendemain, c'est mis en podcast téléchargeable librement et gratuitement sur le Bandcamp de l'Inconsolable, et qui est du coup accessible aussi via le site l'inconsolable.com.
D'accord. Mmh. Et donc là t'en es à la cinquième émission, il me semble.
Ouais, la cinquième du coup sera diffusée la semaine prochaine. Là, d'accord. J'en ai fait quatre pour l'instant qui ont été diffusées toutes sur FPP, et la prochaine du coup c'est la nuit de jeudi à vendredi prochain.
D'ailleurs, on a passé quelques-unes de tes émissions sur notre créneau. Donc, il y en avait une qui était sur le travail qu'on a passé.
Oui, il y avait une petite session thématique, effectivement. Ouais.
Et les deux autres qui ont dû être passées dans l'été par Guy.
Ok,
on remercie
super.
D'ailleurs, même s'il il est actuellement il n'est pas là. C'est Emric qui a repris la technique. Ouais. Et voilà. On va terminer l'émission là, donc j'avais quelques petites infos, je les ferai peut-être après, mais donc tu peux peut-être rappeler le concert qui a lieu sur la région parisienne.
Le concert qui a lieu sur la région parisienne, du coup ce sera juste deux morceaux, mais ce sera dans le cadre d'une journée de mobilisation contre les répressions policières avec la compagnie Jolie Môme à la salle de l'Épée de Bois, quelque chose comme ça. Et ça sera, les infos sont trouvables sur le net et seront trouvables via le site l'inconsolable.com. Pour les non-parisiens ou non-franciliens du moins, il y aura aussi le concert de la Seine-sur-Mer le 14 octobre dans le Var, et puis le concert du 20 octobre à Lausanne en Suisse. Et puis le site sur lequel vous pouvez retrouver tous les morceaux de l'Inconsolable, les morceaux, les clips et les textes des chansons. C'est donc le Bandcamp de l'Inconsolable. Donc vous tapez dans n'importe quel moteur de recherche Bandcamp, B-A-N-D-C-A-M-P, plus loin l'Inconsolable, L'apostrophe 1, le chiffre consolable. Sinon par le site l'inconsolable.com, orthographié de la même manière mais sans l'apostrophe.
Voilà, j'ai retrouvé mes petits papiers pour faire les infos. Déjà, je voulais dire qu'il y a un concert de soutien demain à partir de 19h au 33 rue des Vignoles, donc métro Avron ou Buzinval, avec une entrée prix libre, et il y aura notre ami de Killa Sonyard, puisque Daman qui passe souvent, qui fait d'abord souvent l'émission, soit à la technique, soit en tant qu'animateur, fait partie de ce groupe. Il fait partie de Sparky Riot et de Killa Sonyard et d'autres groupes de dub, et donc il sera au concert de soutien des licenciés avec Brava, qui fait du hip hop noir et vert, et Dub Amix aussi, un groupe qui fait du dub avec un contenu militant, puisqu'il mélange souvent des interviews, des chansons militantes, etc. Donc voilà, et je voulais aussi dire que un autre ami qui s'occupe de l'émission Léo 38 et qui passe assez souvent à Radio Libertaire, il s'agit de Laurent Melon, qui sera demain à la Nuit Blanche pour les 10 ans du générateur, donc c'est de 20h à 1h du matin, et voilà, il sera présent, et il y aura un Scopitone projeté à 4 reprises au cours de la soirée, donc organisé par Laurent Melon. Et donc il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses, il y a des performances artistiques, équestres, picturales, de la guitare électrique, des instruments avant, des performances, et ça pendant toute la nuit, et c'est dans le 13e arrondissement au 16 rue Charles Frérot à Gentilly, donc dans le 94, mais tout proche de Paris. Donc voilà, c'est la Nuit Blanche pour les 10 ans du générateur, et c'est demain de 20h à 1h du matin, et même Aymeric sera là, donc vous pourrez voir des gens de Radio Libertaire, c'est super. Il y a aussi en octobre les samedis de Rencontres et Chansons, qui sont organisés par la librairie Publico, donc la librairie de Radio Libertaire, où vous pouvez acheter, où vous pouvez souscrire aux amis de Radio Libertaire et soutenir la radio financièrement, puisqu'on vit sans publicité et sans soutien financier de l'État. Donc voilà, c'est au 145 rue Amelot, dans le 11e à Paris, vous connaissez. Et là, je voulais vous annoncer, voilà, Mots et Musique, qui co-organise les Rencontres en Chansons. Donc c'est un concert, des concerts à 17h30 le 1er octobre, donc demain, ça sera Fanchon Dimir, donc qui est chanteuse de Barricade. Le 8 octobre, ça sera Pascal Loquin. Le 15 octobre, il y a Frédéric qui chante Gaston Couté et Pierre MacOrlam. Et le 22 octobre, c'est Alain Oresch qui chante Léo Ferret, et il y aura Aruna le 29 octobre. Voilà, comme ça vous savez tout. Et ça sera aussi voilà, dans le cadre des 35 ans de Radio Libertaire. Et voilà, vous pouvez aussi vous renseigner par rapport aux événements sur le site de la librairie Publico, c'est librairie-publico.com. Il y a aussi un autre événement, c'est la manifestation le 8 octobre pour Notre-Dame de Landes, donc qui a des menaces assez concrètes d'expulsion. Et voilà, que résonne le chant de nos bâtons, c'est empêcher l'aéroport et défendre la ZAD. Et c'est le départ 10h dans le Bocage, donc c'est samedi 8 octobre. Donc le départ est effectivement vers Nantes ou à côté de Nantes, sur le lieu de la ZAD, pour protéger en fait montrer la volonté que l'expulsion ne se fera pas aussi facilement que l'État ne le pense
Ou le voudrait.
Voilà. Et voilà, je sais pas, je peux rajouter qu'il y aura bientôt une mobilisation sur le TAFTA le 15 octobre. Il y aura sûrement des... Ouais.
Il y a le procès des Goodyear aussi en octobre à ne pas manquer. Donc, je pense qu'il faudra y être. Et un dernier petit mot, moi, je voulais faire un big up et une grosse dédicace à Sylvain Beck. Du coup, c'est le pote qui m'aide et qui fait toutes les pochettes de mes albums depuis un moment et qui notamment a fait le livret, le magazine de jeux de Rap Games, voilà, qui a beaucoup de talent et que je remercie, et à Benoît Yin, du coup le vidéaste qui a fait les clips de On vaut mieux que ça et 49.3 et puis tous les autres. Voilà, merci à eux.
Et là je crois qu'on a le temps de passer ma chanson préférée de Rap Game. Ouais, et ça s'appelle
ça s'appelle En une syllabe, c'est l'intro.
Et comme nous le fait remarquer Emeric, on n'a pas dit au revoir. Donc on vous souhaite une excellente soirée sur Radio Libertaire avec un mix exceptionnel de Emeric qui va suivre.
Lâche plus la grappe, une fois ouverte la trappe, une fois que mes mots te rattrapent, c'est avec eux que je frappe, c'est avec eux que je tape, c'est avec eux que je trappe, mes bleus c'est eux que je trappe, porte avec eux que je trappe, patrie vers ce vieux rap, parti en vrille en trappe, depuis que tant de rap, peur trapper et les rap, fond de la merde, fond du crap, tant d'asperges car ça rap, porte, pète à la porte le rap, porte, cache dans le cœur rap, partir du moment où le rap, port est fait avec la rap, et le rap devient de la trappe, et une fois le virus attrapé, agrippé à toi rap, et c'est rap et pour le bon rap, évidemment le rap court après, et toi tu cours après, levez-moi pour me rappeler, le rap avant que dérapé, dérapé je rappe, et je rappe et je rappe, je fais les jeux de rap, et ainsi tu le sauras, précisément t'auras pris ce pourquoi je rappe.